Des amours malades, chapitre 4. Une fois dans notre bureau, j'entrai dans le petit cabinet de toilette et je me fis la barbe avec le rasoir électrique que je laissais toujours à l'hôpital en cas de réunion tardive auquel je ne pouvais pas me présenter avec cette ombre noire qui à 5 heures de l'après-midi couvrait déjà mes joues. J'étais torse nu et Micha, planté derrière moi, m'observait avec un air sévère. « Tu n'as pas quelques dossiers à mettre à jour au lieu de jouer les voyeurs ?» demandai-je bourru. « Ce n'est pas toi que je choisirais de regarder si j'étais atteint par ce genre d'obsession. Ton charme ne réside certes pas dans ton physique. »« Heureusement que je ne suis pas susceptible, » fis-je remarquer avec plus de légèreté cette fois. « As-tu lu l'article que je t'ai passé sur l'anorexie au masculin ?» Je l'avais lu, en effet, et alors ?
Comment et alors ?
Il me semble, oui, murmurai-je sans regarder Michael, exagérément occupé que j'étais à boutonner ma chemise. Eh bien ?
Ah, tu vois ?
Eh bien quoi ? D'accord, Alexandre, d'accord, d'accord, c'est comme tu veux. Laissa tomber Michael d'un ton là, les mains haussées au niveau de son thorax, pour me faire comprendre qu'il n'avait aucune intention de se disputer avec moi. Il quitta l'embrasure de la porte et alla s'asseoir à son bureau, où il déplaça des papiers et des dossiers sans même y jeter un coup d'œil, simplement pour me faire croire qu'il ne s'intéressait plus à moi. J'avais effectivement lu l'article. Le nombre des hommes souffrant d'anorexie mentale ou autre genre de troubles alimentaires était en nette augmentation. Pourtant, le fait que cette pathologie fût considérée surtout un mal féminin induisait les patients mâles à ne consulter que rarement, retardant ou empêchant ainsi une possible guérison. Détectée plus difficilement chez l'homme en l'absence de signes secondaires tels que l'aménorrhée, elle était toutefois aussi dangereuse chez l'un que chez l'autre. Les motifs d'un tel dérèglement étaient souvent les mêmes chez les deux sexes. Le garçon commençait peut-être un peu plus tardivement que la fille, mais les conséquences sur sa santé étaient tout aussi terrifiantes. On notait parfois, outre à l'anorexie, des signes d'automutilation. Michael m'observa un instant avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer, puis replongea dans ses papiers. Je jetai un coup d'œil à la fenêtre qui donnait sur le parking réservé au personnel. Une moto venait d'arriver. 500 cm3, rutilante. Selon les experts, un bijou. Je n'étais pas un expert et la moto me faisait peur. Je pratiquais les sports de combat, je conduisais d'une façon peu orthodoxe si cela était nécessaire. J'obtenais de très bons résultats en natation, mais il ne fallait pas me faire monter sur une moto. « Elle est vraiment sublime !» s'extasia Micha, qui avait enfin quitté son refuge de papier et s'était approché curieux de savoir ce que je regardais. « Tu parles de la moto ou du patron ?» Mon collègue haussa un sourcil, mais ne répondit pas à ma taquinerie. Hélène Ledoux quitta son engin avec une souplesse que ceux qui ne la connaissaient pas ne lui auraient pas prêtée. Dans les films, on s'attend toujours que la femme qui chevauche une telle monture en descende avec élégance, saute son casque avec nonchalance, fasse voler ses longs cheveux dorés libérés de la contrainte et ouvre sa combinaison, laissant apercevoir un décolleté jeune et engageant. Le professeur Ledoux, sanglé dans du cuir noir, les reins soutenus par une large ceinture, avait effectivement l'agilité de notre belle actrice. Mais, lorsqu'elle retira son casque, elle ébouriffa simplement de très courtes boucles grises que l'humidité vint friser plus encore. La fermeture qu'elle tira montra un col roulé, noir lui aussi, qui ne faisait rien deviner de ses formes. En fait, aux mesures idéales des femmes fatales, il aurait fallu ajouter au moins 20 cm à chaque numéro pour avoir une idée de la silhouette de notre grand patron. Elle se définissait en surpoids, mais ne voulait pas entendre parler d'obésité. Le visage avait échappé à l'accumulation des kilos, et bien que marqué de nombreuses petites rides, il me donnait toujours l'idée d'une grande fraîcheur. Peut-être parce qu'Hélène Ledoux était une femme très souriante, d'un rare équilibre tant extérieur qu'intérieur. Je ne l'avais jamais entendue hausser le ton depuis que je travaillais avec elle. Elle avait un profond respect pour chacun et recevait en retour de grandes marques d'estime. Nous avions le même âge, mais je me sentais un vieillard à ses côtés. Je quittai la fenêtre à regret, enfilai une blouse propre dont je remplis les poches de différents objets qui me servaient au chevet de mes patients. Michael plaisantait toujours sur la quantité et la diversité de ce que je trimbalais. Mais je ne supportais pas de laisser un malade à moitié nu parce que je devais aller quérir le marteau pour les réflexes qui ne se trouvaient pas sur le chariot de visite, ou parce qu'un ECG n'avait pas été interprété et que sans règle, je ne réussissais pas à compter les minuscules carrés qui me renseignaient sur un éventuel trouble du rythme cardiaque. Michael était d'ailleurs le premier à m'emprunter un peu de mon cirque quand il lui manquait quelque chose et que nous nous trouvions dans la même chambre. Tu es toujours tellement prévoyant et prévisible. Micha, écoute. Commençai-je sans toutefois proférer un autre mot. Michael quitta la fenêtre et me dévisagea d'un air interrogatif. Je t'écoute, m'encouragea-t-il cette fois avec chaleur. Son ton me rassura. J'étais comme un enfant grondé qui n'ose plus regarder son interlocuteur de peur de se voir réprimander à nouveau. Je ne suis pas anorexique, je t'assure. Je sais que les apparences sont contre moi, mais je mange, crois-moi. Je sais aussi que tu penses que si je l'étais, je ne viendrais pas te le confesser. Je ne peux pas être mon propre avocat. Les anorexiques sont comme les drogués, on finit par ne plus croire à ce qu'ils disent. Je viendrai déjeuner avec toi, à midi, au self. Ah, oh ben je veux voir cela de mes propres yeux. Ce sera un spectacle édifiant. La parole avait franchi mes lèvres avant que mon cerveau ne se rende compte de ce que je disais. J'avais parlé avant de réfléchir. Comme Lucky Luke, j'avais tiré plus vite que mon ombre, et mon ombre était là, ricanante, qui attendait le résultat de cette imprudente promesse. Tu peux en être certain. Micha suivit la courbe de mon bras d'un doigt léger, puis saisit ma main dans les siennes et la posa sur son cœur. Tu ne dois pas te forcer si tu n'en as pas envie, murmura-t-il. Tu n'es jamais descendu au self depuis que tu travailles ici. Tu ne dois pas le faire pour moi. Je voudrais seulement te démontrer que tu te trompes, répondis-je avec effort. Je peux te croire sur parole. Non, ce n'est pas vrai, tu ne peux pas. Je viendrai. Mon héros. C'est bon, allons travailler à présent. Nous rejoignîmes les infirmières qui fêtaient à l'Inaubert à grand renfort d'orangeade. Élisabeth Tailleur, une jeune infirmière d'environ 25 ans, se précipita vers Michael et lui tendit un verre qu'il accepta avec un sourire qui aurait fait fondre en quelques secondes l'iceberg heurté par le Titanic. J'imaginais la jeune femme, flaque d'eau informe au pied de l'assistant. En réalité, des formes elle en avait, et elle s'évertuait à les mettre sous le nez de Michael, qui, depuis qu'il savait que la moralité de l'infirmière n'était pas à proprement parler celle de Mère Teresa, et surtout, depuis qu'il avait appris que la jeune femme avait fait particulièrement souffrir Martin Avery, un ami anesthésiste, il prenait un malin plaisir à répondre à ses minauderies, promettant sans promettre. L'homosexualité de Micha n'était pas connue dans le service, et plus d'une jolie fille était tombée sous le charme du bel assistant. Je reçus mon verre des mains de Mehdi Kassem, infirmier lui aussi, qui aurait certainement convenu bien plus à Michael que sa collègue. Mehdi, d'origine maghrébine, avait un visage d'une grande délicatesse dont la peau était malheureusement abîmée par une forme récalcitrante d'acné. D'immenses cils frangeaient des yeux très noirs et sa bouche charnue dessinait un éternel mais franc sourire. Il était marié et père de 3 enfants en bas âge. Il venait d'une petite maison de retraite où il n'avait jamais été confronté aux techniques sophistiquées que possédait le CHG. Il était parfois décontenancé par certaines pratiques, mais apprenait vite et n'hésitait jamais à poser une question ou à demander une démonstration. Il s'adressait souvent à moi et je l'aidais toujours avec plaisir. Nous trinquions à Aline et à son bébé quand le patron entra. Elle avait troqué sa tenue de motard contre une jupe de crêpe bariolée qui lui caressait les chevilles, et sous la blouse ouverte, elle portait un chemisier vert foncé au col Mao. Elle avait pris l'habitude de ne plus fermer sa blouse depuis que le premier bouton fortement tendu par sa poitrine opulente avait sauté au visage d'un vieux prêtre qu'elle visitait. Elle s'était redressée vivement, rouge d'embarras, et avait murmuré une excuse. L'homme d'église avait eu un grand sourire. « Il ne faut pas avoir honte de ce que le Seigneur nous offre, ma fille. L'abondance de biens n'est pas toujours nuisible. Il ne faut rien gaspiller des dons du Très-Haut. » Puis il avait allongé la main vers Hélène avec un geste imprécis. Nous n'avions pas compris s'il désirait bénir cette abondance ou s'il voulait se rendre compte par lui-même des capacités artistiques de notre Seigneur. Vu le taux de son cholestérol, de celui de sa glycémie et de la syphilis pour laquelle nous le soignons, j'avais opté pour la seconde hypothèse. Le saint homme n'avait certes jamais rien gaspillé des cadeaux divins. Quoi qu'il en soit, Hélène Ledoux aimait les vêtements amples et pratiques. Elle n'était pas du genre tailleur et robes élégantes. Elle portait des mocassins à talons plats, car son 1,75 m n'avait pas besoin des chasses. Son visage, sans maquillage, s'illumina en nous saluant. Elle avait un nez un peu fort, légèrement épaté, et une bouche gourmande qui révélait son amour pour la vie. Ses yeux marron clair ne se posaient jamais sur personne par hasard ou par curiosité. Quand Hélène te regardait, cela voulait dire qu'elle te portait son entière attention et que tu étais le centre de son intérêt à ce moment précis. Contrairement à Michael, elle n'aurait jamais eu sa place sur Vogue, mais je la considérais une personne tout aussi exceptionnelle.
Une journée qui commence bien, fit-elle en levant un verre qu'elle s'était retrouvé dans les mains.
Comme l'orangeade était terminée, une aide-soignante décida d'ouvrir une bouteille de Coca-Cola. Malheureusement, le flacon devait avoir été secoué, car quand la femme dévissa le bouchon, le liquide gicla avec force. Les cris et les rires fusèrent en même temps que la boisson. Hélène Ledoux, qui était directement sous le jet, recula précipitamment et finit sur mes pieds qu'elle écrasa sans pitié. Je la retins aux épaules pour lui éviter de tomber. Elle se retourna à demi et s'excusa en pouffant, puis elle tendit son verre à la pauvre aide-soignante qui ne savait plus si elle devait rire ou pleurer.
« Ce n'est pas du champagne, mais le petit David nous pardonnera de l'arroser au coca, j'en suis sûre. À David !»
Nous imitâmes le chef de service et levâmes nos verres pour trinquer au nouveau-né. Je m'aperçus que Michael me dévisageait et haussait un sourcil interrogateur. Son regard courut à mes mains que je tenais encore sur les épaules d'Hélène. L'assistant m'adressa alors un demi-sourire ironique et haussa imperceptiblement son verre pour un toast plein de sous-entendus. J'ôtai brusquement mes mains comme si elles avaient été brûlées par un tison incandescent. Le professeur Ledoux se retourna à nouveau et me sourit. Puis elle s'adressa à Michael.
« J'aimerais vous voir avant de partir pour la visite, docteur Conrad, mais laissez-moi un instant tête-à-tête avec Mouret. Je vous attends dans mon bureau dans 10 minutes.
À tout à l'heure. » Salua Hélène Ledoux en quittant la pièce. Je lui emboîtai le pas. Elle marcha vivement sans m'adresser la parole. Elle s'effaça pour me laisser rentrer chez elle, puis referma la porte. Elle me désigna une chaise en aluminium et en cuir noir placée devant son bureau. Elle fit le tour de ce bureau qui faisait toujours venir la chair de poule tant à Michael qu'à moi, vu notre maniaquerie respective. Nous ne comprenions pas comment elle pouvait s'y retrouver. Dossiers pêle-mêle, revues scientifiques, échantillons médicaux et autres choses encore. Dans les bibliothèques qui se dressaient derrière elle, la situation n'était guère meilleure. Heureusement qu'elle ne recevait pas ses patients dans ce bureau, sans quoi ils ne seraient jamais revenus pour le second rendez-vous. Elle prit donc place dans son vaste fauteuil de cuir, noir lui aussi, joignit ses mains sous son menton, puis elle me fixa. Je soutins son regard.
« Marc Collin vient de m'appeler, informa-t-elle finalement. Il paraît que vous avez maltraité un de ses internes. »
Le ton n'était pas à la polémique. Hélène désirait seulement une explication. Ma réponse résonna moins paisible.
« Il a eu le courage de se plaindre !» lançai-je avec sarcasme.
« Je ne crois pas qu'il se soit plaint. Il a seulement raconté l'épisode à son chef de clinique et comme entre Colin et moi ne coule pas des fleuves de miel, il a sauté sur l'occasion pour me dire de mieux tenir mon personnel. »«
De mieux tenir? Mais qui se croit-il » répliquai-je indigné.
« Vous lui avez vraiment lancé le dossier à la tête ?» voulut savoir le patron.
« Oh Seigneur! Je n'ai pas molesté ce jeune imbécile, si c'est ce que vous voulez savoir. »
Je me levai indigné.
Je lui ai simplement conseillé de... Oh, et puis à quoi bon, cédai-je découragé. Si vous pensez que je passe mon temps à agresser les internes, que je ne vaux rien comme chef de service, que mon travail est mal fait, alors fichez-moi dehors, mais ne m'obligez pas à répondre à des questions pareilles.
Alexandre, asseyez-vous, s'il vous plaît. Personne ne met en doute vos qualités professionnelles. Moi, moins que quiconque. Pourquoi dites-vous des sottises de gens? À 45 ans, vous devriez connaître votre valeur.
Ta valeur? Tu entends? Tu vaux quelque chose? Tu le savais?
J'ai remis Colin à sa place et je lui interdis de s'occuper de mon personnel. Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai fait.
Alexandre, vous m'entendez?
Mais pourquoi êtes-vous bouleversée à ce point? Je n'étais pas à proprement parler bouleversée, mais qu'Hélène me fasse la morale me blessait profondément. Elle n'avait jamais rien eu à me reprocher et ce stupide épisode ébranlait le peu de confiance en moi que j'avais réussi à retrouver en 2 ans passés dans ce service. Une semonce de la part de mon supérieur n'était pas ce dont j'avais besoin. Je me fichais éperdument de ce que pouvait penser Colin ou le reste du monde en général. Je ne prenais pas attention à ce que les gens pouvaient dire de moi.
« Foutaise! Tu éloignes les gens pour ne pas entendre ce qu'ils ont à dire de toi, ou pour éviter qu'ils aient quelque chose à dire de toi. C'est tout à fait différent. »
Mais je ne savais pas pourquoi je tenais particulièrement à l'estime de mon patron.
« De ton patron, Madame le professeur Ledoux, ou d'Hélène ?»«
Je ne suis pas bouleversée, madame. Je ferai attention à ce que je dirai aux internes dorénavant. Avons-nous terminé ?»«
Conrad doit arriver, je veux vous présenter la nouvelle interne. Elle en est à sa dernière année.
Elle remplacera le docteur Aubert, » expliqua Hélène Ledoux en soupirant. « Cela vous ennuie vraiment d'attendre un instant ?»«
Non, bien sûr. » Fis-je résigné alors qu'on frappait à la porte.
Michael entra et comprit immédiatement que l'atmosphère était tendue.
« J'espère que votre venue déridera votre chef de clinique, Conrad.
J'ai réussi à le fâcher, ce qui n'était pas dans mon intention, croyez-moi.
Vous savez bien qu'Alexandre est un peu soupaulé, madame, retorqua Micha pour alléger la situation.
Je suis heureuse que vous vous entendiez aussi bien tous les deux.
C'est reposant après votre prédécesseur, Alexandre.
Lui et Michael étaient en guerre constante, expliqua-t-elle à mon intention. C'était infernal.
Oh, pas une guerre ouverte, naturellement.
Une ambiance empoisonnée par leurs désaccords permanents, une politesse envenimée. C'était insoutenable.
Avec vous, au moins, ce n'est pas le cas.
C'est un plaisir de travailler avec vous deux.
Hélène pensait ce qu'elle disait. Elle ne voulait pas me mettre du baume au cœur. Simplement, elle me mettait au courant de l'un de ses sentiments au moment où elle le ressentait, et c'était très important pour moi.
Plus encore que de la nature de ce sentiment, il m'importait qu'elle me reconnût digne d'en profiter, tout comme elle avait voulu me mettre au fait des réflexions de Colin. Pas pour me faire un sermon, non, mais pour savoir ce que j'en pensais, pour savoir ce que moi aussi je ressentais. Au lieu d'exprimer la souffrance que j'avais endurée en entendant hurler le jeune homme qu'un interne de psychiatrie inattentif avait sans raison ligoté dans son lit, j'avais pleurniché sur la vie d'un médecin à la recherche de conflits. Ce qui intéressait Hélène, c'était ma souffrance et celle du malade, pas les plaintes de Colin. J'avais été ridicule.
Je suis désolée, madame, je me suis comportée comme un idiot.
Avec vous, je veux dire. Avec l'interne, j'aurais pu être un peu moins bourreux, je vous l'accorde, mais il devait comprendre son erreur. Entendre Pierre hurler de cette façon était au-dessus de mes forces, et le traiter comme un démon était inhumain.
C'est indéniable. Quoi qu'il en soit, Conrad, ne vous éloignez jamais trop quand je parle avec Mouret. Vous êtes encore mieux que le lorazépam comme anxiolytique.
Cela fait déjà deux fois aujourd'hui que je m'entends taxer de malade psychiatrique. Je crois que ça peut suffire, fis-je un peu froidement.
Pourquoi? Tu trouves qu'ils ont tort?
Je vis la main de Micha se crisper sur le bras du fauteuil. J'étais injuste avec lui aussi. Il avait voulu m'aider en me faisant lire l'article sur l'anorexie. Pas m'interner.
« Oh, Mouret, mais qu'est-ce que vous avez mangé au petit-déjeuner ?» s'exclama Hélène.
« Non, pas ça, pas le petit-déjeuner !» lança Micha en se tenant la tête. Il avait un air si comique que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire.
« Cher Micha !»
Nous fûmes interrompus par l'interphone. La secrétaire d'Hélène annonçait l'arrivée de l'interne. Avant de la faire entrer, le patron nous regarda tour à tour, puis « Vous devrez m'expliquer le dernier éclat de rire parce que je n'ai pas compris, » implora-t-elle sérieuse. Puis elle fit entrer la nouvelle interne, et nous restâmes tous les trois bouche bée.